5 ans après son lancement, le projet Lucie voit enfin le jour. C'est une nouvelle manière de traiter les résidus issus de la transformation du minerai, plus durable que l'actuel barrage. Un investissement de 60 milliards de francs. Le budget 2026 de la province Nord, adopté à l'unanimité ce matin par les élus de l'Assemblée, il s'élève à 43,6 milliards de francs contre 42 milliards l'an dernier. Appel à la vigilance sanitaire, les pluies de ces derniers jours favorisent la reprise de la dengue et de la leptospirose. Depuis le début de l'année, 123 cas de dengue et 39 de leptospirose ont été recensés. Et comme chaque vendredi, nous ferons notre tour d'horizon des événements sport du week-end sur le territoire à ne pas manquer, du rugby et le match du 15 du Pacifique face au RC Mandor. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un projet de plusieurs milliards de francs qui voit enfin le jour. La nouvelle unité d'assèchement des résidus de l'usine du Sud est maintenant fonctionnelle. Charlotte Coulson, c'est l'aboutissement du projet Lucie lancé il y a 5 ans maintenant.
Il était présenté en 2021 comme un challenge industriel passionnant. Le projet Lucie, c'est une toute nouvelle manière de traiter les résidus issus du procédé hydrométallurgique. Depuis 2008, ces résidus sont stockés sous forme humide dans un barrage. C'est le parc KO2. Problème d'une capacité de stockage de 45 millions de mètres cubes, ce parc arrive presque à saturation. La question s'est donc posée il y a quelques années déjà de construire un nouveau barrage ou bien de s'orienter vers une nouvelle méthode de traitement des résidus plus durable. C'est donc en 2021 que le projet Lucie a vu le jour. Lucie, c'est en fait une unité d'assèchement des résidus, une UAR. Comme son nom l'indique, les déchets sont plus secs, ce qui change beaucoup dans la gestion des résidus. Comme le détaille Monia Sayari, responsable département géosciences à Progny Ressources.
Aujourd'hui, la pulpe qui vient de l'usine, elle est stockée directement dans le bassin. Le pourcentage solide de cette pulpe est d'environ 20%. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel. Avec la mise en service de l'UAR, au lieu d'envoyer la pulpe directement vers le bassin, on va plutôt l'envoyer vers les épaississeurs. Donc il y aura une première phase de séparation liquide-solide jusqu'à ce qu'on arrive à un taux solide d'environ 35%. À partir de là, la pulpe épaissie, elle va partir dans les filtres. Au niveau de filtre, on continue la deuxième phase de séparation liquide-solide jusqu'à ce qu'on arrive à un taux solide de 73%. Et donc, le produit final est donc un produit qu'on peut transporter dans des camions et les stocker dans la zone aval, donc en aval du barrage.
La surface sur laquelle sont stockés ces résidus asséchés mesure 80 hectares, ce qui permettrait de stocker près de 2 600 000 mètres cubes de résidus par an et ainsi sécuriser le stockage pour les 10 années à venir. Pour Thibaut Martelin, le président de Progny Ressources, c'est un investissement coûteux mais nécessaire pour conforter les potentiels repreneurs et donc pérenniser l'activité industrielle.
Évidemment, arriver avec un projet d'une ampleur considérable, on parle d'un budget de 60 milliards de francs, eh bien, arriver à l'aboutissement de ce projet, concrétisé, c'est un message fort que l'on envoie aux repreneurs ou aux investisseurs potentiels, qu'on est capable de faire les choses et de bien les faire. Donc ça donne également de la visibilité sur l'exploitation. Donc c'est sûr que ça rassure, ce n'est pas le seul élément qu'il faut que l'on apporte pour prouver notre rentabilité et notre pérennité, mais c'est un élément certain. Nous, aujourd'hui, nous nous concentrons avant tout sur l'exploitation et sur arriver à opérer de manière rentable cette usine. On est sur un ramp-up très encourageant avec des résultats qui sont également très encourageants avec des records de production tant au niveau de la mine qu'au niveau de l'usine sur la fin de l'année 2025. Et je pense qu'on a apporté la preuve que cet outil fonctionne et qu'il peut fonctionner longtemps parce qu'il est profitable.
L'usine d'assèchement a donc démarré. Les premiers résidus seront stockés dans les jours à venir. Quant au barrage qui servait depuis 2008, il ne sera pas vidé. Avec le temps, les résidus humides qu'il contient vont se tasser. L'eau continuera d'être pompée et traitée. Le barrage servira en cas d'opération de maintenance ou d'intempérie pour remplacer temporairement l'usine d'assèchement. L'aboutissement du projet Lucie a donc été présenté ce matin par PRNC. Les coutumiers étaient bien sûr invités. Cette nouvelle gestion des résidus est d'ailleurs plutôt vue d'un bon œil. Alors que le barrage représentait toujours une crainte pour les populations, selon Jean-Pierre Agouréré, le président du conseil de la tribu de Goro et vice-président de l'aire Djoubéa Kapoumé.
Quand on parle de projet Lucie, on raisonne environnement. On pose des questions, on parle de la boue, on parle des pollutions des cours d'eau, on parle des 10 trous, on parle de la capacité de l'eau qui va être dégagée dans l'émissaire. C'est tout un ensemble. Ce sujet-là qui reste fragile pour nous et il est dans nos têtes.
Le sujet du barrage ?
Le sujet du barrage, parce que c'est un barrage qui est fait en terre et de cailloux. Il est réglementé par les comités des grands barrages, mais reste toujours une crainte pour la population. C'est tout bénéfique aujourd'hui pour nous parce qu'on va limiter un peu les influents dans le KO2 pour pouvoir les compresser, mais sortir en schiste-cake et puis l'exposer pour pouvoir réhabiliter. C'est tout bénéfique.
Et pour Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, cet aboutissement n'est qu'une première étape car les négociations décisives pour l'avenir de l'activité minière de l'usine du Sud sont toujours en cours avec les potentiels repreneurs de l'usine et l'État.
Le voir aboutir, c'est quand même assez génial et assez intéressant d'un point de vue de la projection parce qu'en fait, concrètement, cette usine ne peut continuer à tourner que si on a ce projet-là. Et donc, le fait qu'on ait réussi à maintenir l'investissement sur Lucie pendant toutes les périodes d'incertitude, en fait, grâce à l'aide de l'État aussi, hein, on a réussi à continuer à croire dans l'avenir de la société. Là, maintenant, il reste deux grosses étapes en fait à passer. Cette question d'autorisation d'export, aucun repreneur, que ce soit celui-là ou un autre, n'ira au bout du processus de reprise s'il n'y a pas d'autorisation d'export du minerai non transformable localement. Et puis le deuxième élément, c'est que évidemment le repreneur demande beaucoup d'argent à l'État. Donc c'est ce qui devrait être fini d'être négocié dans les prochains jours, puisque l'idée c'est d'avoir une reprise au 31 mars effective.
Et justement, les textes sur l'autorisation d'exportation des réserves métallurgiques doivent être examinés mardi prochain au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La semaine dernière, le budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie a été adopté à l'unanimité des élus du Congrès, malgré l'abstention du groupe UCF-LNKS. Le membre du gouvernement en charge du budget, Christopher Gigès, est satisfait de la manière dont les choses se sont passées. Et Jean-François Baudin, il l'a dit ce midi dans le magazine Transparence, où il était l'invité d'Elisabeth Noir.
Christopher Gigès, satisfait de l'état d'esprit qui a prévalu pendant les débats et de la possibilité surtout de boucler ce budget. Cela a été possible grâce au soutien de l'État, même si le résultat a été obtenu au terme d'un bras de fer.
Ça a été un dialogue exigeant, si on ne veut pas utiliser le mot bras de fer, même si ça a été quand même un peu ça, puisqu'on a eu quand même des relations très dures, puisque les premières réponses de l'État, c'était que si vous n'inscrivez pas le remboursement des prêts, le budget serait insincère et on ne verserait pas les 300 millions d'euros qui étaient prévus. Donc on a eu un dialogue exigeant, on a été plusieurs fois à Paris échanger. Je crois que l'État s'est rendu compte également des réformes qui ont été faites par la Nouvelle-Calédonie, avec une baisse quand même de 15 milliards de nos dépenses publiques, des choses qu'en métropole, ils n'arrivent même pas à faire le quart du dixième de ce qu'on est en train de réaliser en termes de réforme. Et ensuite, il y a eu la séquence sur l'avenir institutionnel qui a permis d'acter les discussions qu'on avait menées.
Cette aide de l'État permet de répondre à plusieurs urgences et Christopher Gigès a détaillé l'utilisation de ce soutien financier.
On a réussi à mettre dans ce budget ce qui intéresse les Calédoniens, c'est-à-dire le fait qu'on a deux années blanches, on a des transformations de prêts en subventions, on a les retraites qui sont pérennisées. J'insiste beaucoup sur les retraites parce que la CAFAT nous alerte depuis maintenant des mois que les retraites du secteur privé étaient en cessation de paiement au mois de juin. C'est-à-dire que les retraités calédoniens, les milliers de retraités calédoniens, risquaient de ne pas avoir de retraite à ce moment-là. Et ce budget nous permet aujourd'hui d'assurer cette viabilité.
C'est pérennisé, ça veut dire que c'est valable pour combien de temps ?
Vous avez raison de préciser, parce que c'est pérennisé pour cette année. Néanmoins, ça nous oblige aussi de faire des réformes. Et ça nous permet de faire des réformes moins sous la pression. C'est-à-dire que des réformes sur les retraites, on a passé un texte en séance du gouvernement, notamment sur l'augmentation de la durée de cotisation de 2 ans. Pour l'instant, on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. On dit juste qu'il faudra travailler d'ici 2029, 2 ans de plus. Ça, on est obligé de le faire si on veut à terme pérenniser le système de retraite. Mais même, un système de retraite doit être réformé en permanence du fait de l'évolution de l'espérance de vie de la population.
L'un des acquis du dialogue avec l'État, c'est la transformation des prêts en subventions. Le membre du gouvernement en charge du budget est revenu sur cette avancée essentielle pour les finances calédoniennes.
Sur les 2 prochaines années, c'est sûr qu'on ne remboursera rien puisque c'est des années blanches. On l'avait dit, 8,4 milliards à rembourser dans le budget de la Nouvelle-Calédonie cette année. C'était la moitié de la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie pour un territoire qui a perdu 13%, 15% de son PIB. C'était pas jouable. Et donc là, le contrat de désendettement qui a été négocié avec l'État, c'est le fait de construire une trajectoire de redressement de nos comptes. Ça veut pas dire du donnant-donnant, mais de dire comment on rétablit les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Et avec ça, l'État nous donne en subvention l'équivalent pour rembourser les dettes chaque année. Donc on est sur une dette quand même de 211 milliards, ce qui était insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. C'est 4 fois le rendement de la TGC, pour donner un ordre d'idée. C'est 10 fois l'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même une belle victoire pour les Calédoniens et surtout pour les générations futures.
Malgré le contexte et malgré la situation économique, Christopher Gigès ne veut pas parler de budget d'austérité. Il préfère évoquer un budget de responsabilité et il souligne que des investissements importants ont été inscrits pour permettre la relance.
On augmente de plus de 25% notre investissement puisqu'on passe de 7 à 9 milliards l'investissement public. C'était une volonté très forte de la part de la Nouvelle-Calédonie pour participer à la relance. Ça fait longtemps que la Nouvelle-Calédonie ne s'était pas mis à 9 milliards. Ça a été rendu possible notamment par les économies qu'on a réalisées. Par exemple, sur la masse salariale où on a fait 700 millions d'économies, ces 700 millions, ils ont été réinvestis dans la relance de l'activité économique. Et surtout, on a fait un travail d'identification des chantiers qui pourront être lancés rapidement pour recréer des emplois rapidement. Parce qu'il y a une chose qui nous obsède, c'est recréer des emplois. Et ça, ça va de pair avec une autre augmentation dans le budget qui est l'augmentation du budget de la formation professionnelle et de l'alternance pour former les jeunes calédoniens, mais également pour former ceux qui ont perdu leur emploi et qui ne pourront pas retrouver dans le secteur où ils exerçaient jusqu'à présent parce que peut-être qu'il n'y a plus de travail dans ces secteurs-là. Donc l'idée est de les accompagner dans une reconversion.
Les recettes de ce budget 2026 sont constituées de l'aide de l'État, mais aussi de la fiscalité calédonienne, avec même un petit frémissement.
On s'attendait à un atterrissage de 83 milliards de recettes fiscales. On est sur un atterrissage à 87 milliards à la fin de l'année. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On devait être à 3 milliards de droits d'enregistrement. On est à 4 milliards 6. Donc, c'est que ça évolue aussi. On est sur un rendement de la TGC qui est équivalent aux douanières, équivalent à celui de 2023. Donc, il y a des bonnes surprises. C'est pas encore le niveau qu'on espère atteindre, qui est encore plus élevé. Mais c'est des bonnes prémices. Et là, on a voulu être raisonnable et on tablait sur une augmentation en termes de croissance de plus 1%. Même la mission interministérielle pensait qu'on pouvait se mettre à plus 2. On a voulu être un petit peu prudent et faire un réajustement à la hausse plutôt que comme l'année dernière où on avait été un petit peu trop ambitieux et on a fait un réajustement à la baisse, ce qui est toujours très compliqué d'aller expliquer ça au président de province et au maire.
Une fois le budget voté, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va se consacrer à quelques gros dossiers comme celui du Ségur de la Santé. Et en toile de fond, toujours l'avenir institutionnel. Il a été demandé à Christopher Gigès sa réaction sur le cheminement parlementaire de la réforme constitutionnelle.
Déjà, si le processus de Bougival n'aboutit pas, je ne sais pas quand il aboutira à un processus institutionnel. C'est-à-dire que si ça n'aboutit pas là, il faudra attendre la prochaine présidentielle et il faudra attendre après les présidentielles pour ça. Enfin, déjà, je salue la décision des sénateurs d'avoir accompagné ce texte-là. On verra ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais au final, on ne demande même pas aux parlementaires de dire s'ils sont pour ou contre Bougival. On leur demande de permettre de donner la parole aux Calédoniens. C'est ça qui est demandé. C'est-à-dire de dire que les Calédoniens puissent s'exprimer sur Bougival. Parce que tout le monde s'exprime, sauf les Calédoniens. Et donc là, on demande juste aux parlementaires, donnez-nous la parole pour que les Calédoniens, dans leur ensemble, puissent dire, est-ce qu'on est pour ou contre Bougival et est-ce qu'on veut avancer sur ça? Moi, j'ai défendu Bougival, je défendrai tout ce qu'il y a dedans, mais la seule parole qui vaille, c'est celle des Calédoniens et si le Parlement décide de ne pas donner la parole au peuple, c'est quand même assez particulier.
Christopher Gigès, invité de Transparence, une interview qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition 17h45. Vous pouvez également la retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet.
Moment clé en ce début d'année à l'Assemblée de la Province Nord. Ce vendredi matin, les élus se sont réunis en séance publique. Pas moins de 39 points à l'ordre du jour avec, comme temps fort, le vote du budget 2026, Léo Fichou.
Oui, un dossier clé qui fixe les grandes orientations financières, les priorités d'action de la collectivité pour l'année à venir. Le président de la Province Nord était absent, tout comme Jean Crenier, Pierre-Chanel Tutu-Goro, Daniel Goa et Caroline Machereau. C'est donc Nadège Fèvre, première vice-présidente, qui a ouvert les travaux peu avant 9h30, une demi-heure après le début initial de cette séance publique. Le budget primitif 2026 de la province Nord était le troisième point à l'ordre du jour, très peu débattu. Il a été adopté à l'unanimité. Un budget dit de transition par Wilfried Weiss, qui a fait consensus et qui s'élève à 43 595 millions contre 42 milliards en 2025, soit une hausse de 3,7%. Cette année, le budget est réparti de la manière suivante. 31 milliards 840 millions de fonctionnement, 11 milliards 750 millions d'investissement. Un budget responsable, a expliqué Nadège Fèvre, première vice-présidente de la province Nord.
Oui, tout à fait. Donc construit sur la base de 101 milliards de recettes fiscales. Donc que sera, sera. Hein. Nous verrons bien au niveau du contrôle de légalité. Mais a priori, bon, garanti hein, par des aides de dernière minute de l'État. Donc un budget responsable, oui, mais qui privilégie aussi les aides sociales, notamment parce qu'on poursuit notre rééquilibrage, hein, comme on l'a toujours fait. Donc les aides sociales, non seulement de santé, mais les bourses scolaires, etc. Donc ce qui nous permet de poursuivre de façon relativement aisé, vu le contexte, nos politiques publiques.
Un budget maîtrisé, équilibré, en légère progression globale, marqué par une augmentation des dépenses de fonctionnement et un investissement en retrait, tout en maintenant les priorités sociales, éducatives et sanitaires. En effet, Nadège Fèvre a mis l'accent sur la santé, rappelant que la province Nord poursuit ses dynamiques.
Toujours en rendant de l'appétence pour les métiers au Nord, pour les emplois au Nord. Certes, voilà, pour pouvoir faire venir l'attractivité, on y travaille. On a aussi des systèmes de visio que l'on déploie. Donc on essaie vraiment de faire du tout en un pour essayer de satisfaire aux besoins de notre population. Qu'elle ait cela in situ, qu'elle ne soit pas dans l'obligation effectivement d'aller dans le Sud, vu les problématiques de transport, d'hébergement, etc. Et puis parce que tout simplement, on ne veut pas d'une santé à deux échelles, à plusieurs vitesses. Donc nous, notre entêtement et notre enjeu, c'est évidemment de faire que nos populations ici trouvent à proximité ce qui leur est nécessaire pour bien vivre. Donc on s'y attelle, on continue d'y travailler. La situation est compliqué, le chemin n'est pas facile, là aussi, on s'entête et on ne lâchera rien là-dessus jusqu'à obtenir une couverture médicale satisfaisante pour l'ensemble de nos populations.
Autre sujet important, souligné à plusieurs reprises par les élus, la jeunesse et la scolarité, notamment au lendemain de la rentrée. La province Nord accompagne une fois de plus les communes.
Cette année, de manière exceptionnelle, pour accompagner aussi nos collègues des mairies, le président a décidé de financer 50% de leur part, sous condition qu'ils nous en fassent la saisine dans les communes concernées par l'existence des quatre confessionnels que nous soutenons. Alors oui, effectivement, il y a une difficulté avec l'ADEC qui a fermé certains établissements, comme vous le savez. Donc on travaille pratiquement tous les jours, au glissement de ces enfants. L'idée, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est d'éviter que tous les enfants se déscolarisent. Ça, c'est notre préoccupation à tous. Donc, s'il faut traiter les cas particuliers, notamment dans la zone de Puebo, qui est beaucoup plus difficile à gérer, nous nous déplacerons même sur place et nous ferons du cas par cas.
Au-delà du volet financier, les élus se sont également prononcés sur une série de 39 délibérations, vous le disiez Léana, relevant des secteurs de l'environnement, du développement économique, de la culture, des sports, de l'enseignement, mais aussi de l'aménagement et du foncier.
Et le groupe Uni de la province Nord soutient Jean-Pierre Jayway. Le porte-parole du parti a en effet fait l'objet de menaces de mort, ainsi que sa famille, après une interview qu'il a donnée sur un média calédonien. Dans un communiqué, le groupe Uni de la province Nord exprime son indignation des agissements intolérables et répétés qui constituent un délit sanctionné par la loi, écrivent Ivana Bouanou et Patricia Goa, élus Unis du Nord. Elle rappelle que les élus démocratiquement élus sont légitimes et condamnent avec fermeté ces attitudes graves qui nuisent à la poursuite des discussions et des travaux à venir. 18h passées de 3 minutes, première pause avant de jeter un œil au municipal 2026.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Léana Colombo.
La préparation des élections municipales des 15 et 22 mars, réparer, protéger, rassembler, c'est le mot d'ordre de la liste Unie dans la diversité qui se présente aux municipales à Nouméa, Jean-François Baudin.
Et c'est la première fois que l'Unie, qui réunit le PALICA, l'UPM et l'UNID, participe sous son nom aux municipales à Nouméa. Auparavant, ces candidats se présentaient sur la liste FLNKS. Sa philosophie se décline en trois mots qui sont tout un programme, réparer, protéger, rassembler. La liste affiche sa volonté de rassembler les Nouméens dans toute leur diversité et quel que soit leur quartier. Mais d'abord, réparer, les explications de la tête de liste Pierre Wang, qui est par ailleurs le premier vice-président de l'UPM.
Première thématique à réparer, due à tout ce qui s'est passé, due à l'ensemble de la crise économique et sociale que nous avons rencontrée. Beaucoup de personnes ont toujours une confiance dans l'avenir de ce pays, mais ne se retrouvent pas et aimeraient bien notamment retrouver un emploi, retrouver une vision plus limpide de leur avenir au niveau social, au niveau économique. Certains ont quitté le territoire, ça il faut le dire. Donc réparer, c'est réparer dans une volonté attractive et dans une volonté aussi de confiance, amener et ramener la confiance que l'on peut continuer à construire ce pays tous ensemble. De toute manière, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre tous ensemble.
C'est Valérie Poigoun qui est la deuxième sur la liste et elle insiste sur les thématiques de la jeunesse et de la sécurité qui sont des points importants du programme de la liste Unis dans la diversité. Elle insiste aussi sur la nécessité de faciliter l'accès aux transports, sur le respect de la diversité culturelle ou encore sur la nécessité d'accroître l'attractivité de Nouméa. La liste Unis dans la diversité sera confrontée à deux autres listes indépendantistes, celle du FLNKS conduite par Lesea Djouniop et la liste MNIS de Moneiko Aouchas.
Et au total, 8 listes seront présentes aux municipales de Nouméa. Outre les 3 listes indépendantistes, la liste de la maire sortante Sonia Lagarde, la liste conduite par Virginie Rufnac, la liste emmenée par Philippe Dunoyer et 2 listes issues de la société civile. L'une est conduite par Véronique Forestier et l'autre par Claude Sirène. C'est lundi le 2 mars que le début de la campagne officielle pour les élections municipales. Et c'est ce jour-là également que le Haut Commissariat devrait rendre public l'ensemble des listes candidates dans les 29 communes calédoniennes qui ont plus de 1000 habitants. Dans les 4 communes qui ont moins de 1000 habitants, Bélep, Farino, Saramea et Moindou, les candidats ont jusqu'au 7 mars pour déposer leur liste. Dès ce matin, le tirage au sort déterminant l'ordre d'attribution des panneaux d'affichage a eu lieu et on en un peu plus concernant les communes de l'agglomération. Il y aura donc 8 listes à Nouméa, 7 listes au Mont-d'Or et à Païta et 6 listes à Dumbéa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Êtes-vous intéressé par les élections municipales alors que la campagne officielle débute ce lundi? Si ces élections vous intéressent, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 57% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que ce sont essentiellement les enjeux de proximité qui détermineront leur choix lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Ils sont 43% à dire que ce sont les enjeux d'avenir institutionnel qui guideront leur choix. En bref, une bonne nouvelle pour les usagers de la route avec une nouvelle baisse des prix à la pompe pour ce mois de mars. L'essence sera affichée à 151 francs 10 le litre, soit une diminution de 1,60 francs par rapport au mois dernier. Le gasoil sera proposé à 135 francs 30 pour une baisse de 0,80 francs comparé à février. Des prix qui seront effectifs dès ce dimanche. Un globicéphale retrouvé mort hier à Bouraille. L'animal a été découvert échoué dans la mangrove d'un chenal de la tribu de Guaro. Le corps était en état de décomposition avancée selon les gardes nature de la province sud qui se sont mobilisés pour évacuer rapidement le spécimen de 4,94 m. Selon les estimations, le globicéphale était dans la zone depuis lundi. Olivier Roland, responsable des gardes nature de la province sud de Bouraille.
On nous a prévenu hier à 16h qu'il y avait un globicéphale qui était mort à la tribu de Guarodeva. Donc on a mis le canot à l'eau, on a été le chercher dans le remorque parce qu'on avait une petite embarcation. On a quand même décidé de le prendre quoi, parce qu'avec le risque requin et puis il était déjà en état de décomposition assez avancé. On l'a traîné jusqu'à sur le sable dans la baie de Guaro. J'ai appelé les services techniques de la ville de Bouraille qui sont venus avec une pelle rétro, un camion. Et ensuite, on a été l'enterrer à un endroit où il y a une fosse dédiée pour sur le domaine de Deva. C'est une mort naturelle parce qu'il n'y a aucun impact d'hommes dessus, d'hélices de bateaux. Il y en avait un à Lifou, c'est la semaine dernière, je crois aussi. Nous, on en a déjà eu dans la baie de Nessadiou il y a 3 ans. Il y avait, je crois, 14 spécimens. On avait réussi à en sauver 6. Et les 8 autres, ben, malheureusement, ils sont morts dans la baie. C'est en général, quand ils rentrent dans les baies, comme ça, les globicéphales, c'est mauvais signe, quoi.
Par mesure de précaution, la baignade a été interdite aux habitants dans la zone pendant au moins une semaine pour éviter les risques d'attaque de requins. Les gardes nature rappellent que si une situation similaire se présente, il est conseillé de contacter le centre opérationnel appel de surveillance et de sauvetage au 15. Un drame évité de justesse hier soir sur le parking d'une pharmacie de Normandie. Un homme qui remontait dans sa voiture a fait une marche arrière, mais il n'a pas vu qu'un homme fortement alcoolisé était couché près de la voiture. Il lui a donc roulé dessus. La victime a été blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Et puis, un incendie hier a détruit une maison à Païta. Elle était située non loin du collège Gabriel Païta. Les habitants de la maison, une famille avec deux enfants, n'étaient pas présents au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de victimes, mais la maison est entièrement détruite. Une enquête est en cours. La piste criminelle est privilégiée.
RRB, il est 18h10.
Attention à la reprise des cas de dengue et de leptospirose, deux maladies dont le développement est rendu propice par les conditions météo pluvieuses de ces derniers jours. Le gouvernement indique que 123 cas de dengue répartis dans 19 communes ont été recensés sur le territoire depuis le début de l'année. Florie Chélan, chef du bureau santé environnement à la DAS, nous rappelle les symptômes de la dengue.
Les symptômes de la dengue sont une fièvre d'apparition brutale, une fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête. Et donc, dès qu'on commence à être malade, il faut aller voir un médecin qui va nous prescrire un test pour confirmer que c'est bien la dengue. Et il faut également se protéger avec des répulsifs pour pas se faire piquer, puisque lorsqu'on est malade, on a le virus de la dengue dans le sang. Et donc, si on se fait piquer par un moustique, il peut transmettre le virus à des personnes de notre entourage, donc bien se protéger avec des répulsifs. Il faut éliminer les gîtes larvaires autour, donc nettoyer son jardin, éliminer toutes les réserves d'eau. Et dès qu'on a les symptômes, comme je l'ai dit, aller bien voir un médecin.
Dans le Grand Nouméa, la circulation reste contenue grâce à la présence de moustiques porteurs de Wolbachia qui limitent fortement la transmission. La transmission est en revanche plus active ailleurs et notamment dans les communes de Poya, Tio, Puebo et Huegua qui regroupent une part importante des cas déclarés. Quant à la leptospirose, 39 cas confirmés ont été recensés depuis le début de l'année. Et attention à ne pas confondre les symptômes de cette maladie avec ceux de la dengue qui sont similaires.
Forte fièvre d'apparition brutale, courbature, maux de tête. Et comme les symptômes ressemblent à ceux de la dengue, il faut aller consulter pour avoir un diagnostic, puisque pour la dengue, il n'y a pas de traitement, à part du paracétamol pour réduire les douleurs. Mais pour la leptospirose, en début de maladie, on peut prendre un antibiotique. Il faut qu'il soit pris très rapidement, donc dès le début des symptômes, pour éviter qu'il y ait des complications. Et malheureusement, on a déjà eu un décès de la leptospirose. 67% des cas ont été déclarés en province nord, et notamment dans des communes de la côte est. Et les communes les plus touchées sont actuellement Tio, Ponériouen, Pointe-d'Imier, Puebo et Wailou.
Le gouvernement appelle à la vigilance et invite les personnes présentant des symptômes à consulter un médecin. 18h passées de 13 minutes, seconde pause dans ce journal avant de voir le programme festif et sportif de ce week-end. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Léana Colombo.
Et ce week-end marque le début des soldes d'été. Elles commenceront demain, le 28 février, et s'achèveront le dimanche 29 mars. Ronan Délé, président du syndicat des commerçants, était notre invité du matin cette semaine pour évoquer cette période importante pour les commerçants et les clients à la recherche de bonnes affaires.
Je pense que l'on aura une belle période de soldes,
On a senti les commerces très calmes durant le mois de février avec la rentrée. Les Calédoniens ont besoin malgré tout de consommer. C'est un besoin qui reste vital, même s'il a un petit peu évolué avec le temps. Et malgré tout, voilà, je les encourage réellement à venir ce week-end voir leur commerce parce qu'il est vraiment important pour une relance économique et pour le bien de la Nouvelle-Calédonie également que les Calédoniens consomment localement. On fait le maximum pour leur offrir de belles offres et de belles remises avec une belle offre produit. On espère qu'ils seront au rendez-vous samedi.
Une interview que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Autre événement ce week-end, le salon de l'environnement organisé par le cluster Acotrade à l'hippodrome Henri Millard. Jusqu'à demain, une trentaine d'exposants, associations, collectivités et entreprises en lien avec l'environnement seront présents. Parmi les thématiques abordées autour de tables rondes, la gestion de déchets, la biodiversité ou encore l'upcycling. Le programme est disponible sur la page Facebook d'Acotrade. L'entrée est gratuite de 8h30 à 17h30. Voyons maintenant le reste des événements festifs du week-end avec vous, Charlotte Coulson.
Et partons tout d'abord du côté de Dimbéa qui organise demain sa quatrième rentrée des associations de 8h30 à 12h30 au complexe sportif à côté du lycée d'Ikukewe. Près de 40 associations seront présentes pour faire découvrir leurs actions au grand public. De nombreuses animations et initiations seront également proposées. Un rendez-vous similaire est organisé demain au Mont d'Or de 9h à 15h. C'est au complexe sportif de Boulari. En centre-ville de Nouméa, l'Art Factory propose également de faire découvrir ses ateliers et sa programmation artistique de l'année. C'est de 9h à 15h. Autre structure qui ouvre ses portes demain, le CNC, le Centre des nageurs calédoniens, situé baie de l'Orphelinat. De 9h à midi, vous pourrez tester toutes les activités autour de la natation. Et puis le service des archives de la Nouvelle-Calédonie proposera quant à lui une exposition intitulée Archives inaccessibles à partir de demain et jusqu'au 31 juillet. Une exposition à retrouver de 8h à 16h au service des archives à Nouville. Et puis toujours à Nouville, ce sera également demain soir que le Théâtre de Lille rouvrira sa saison 2026. Samedi et dimanche, les spectateurs pourront assister à la pièce Toutes les choses géniales, mise en scène par Stéphane Dora et Catherine Ozeux. Il est toujours possible de réserver une place sur le site ticket.nc. Et puis enfin, pour les passionnés d'aviation, le film documentaire Athos au cœur de la patrouille de France sera retransmis ce dimanche au Cinécity à 16h30. La projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec le lieutenant-colonel Aurélien, ancien leader de la patrouille de France.
Côté marché, bonnes affaires, on ne le présente plus. Le traditionnel vide-grenier de la place des Cocotiers prendra place ce dimanche à Nouméa de 7h à 12h30. Ce sera également le jour pour retrouver le marché du 7e de 7h à midi. Place à l'environnement, à Pointe-Boute, le centre d'initiation à l'environnement plantera demain 200 arbres sur le site de la forêt sèche de Tipanga. Le rendez-vous est donné de 8h à 11h. N'oubliez pas votre matériel et de mettre des chaussures fermées. Et à Nouméa, c'est l'association Calédoclean qui mettra en terre demain 500 plantes au parc urbain de Sainte-Marie de 8h à midi. Enfin, après avoir fêté le Tet il y a une dizaine de jours, la communauté vietnamienne se réunit ce dimanche à partir de 11h30 pour célébrer la journée des anciens au foyer de Magenta. On passe au sport et comme chaque vendredi soir dans ce journal, le programme du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et Léo affiche où à l'international. Ce week-end sera marqué par la reprise du championnat du monde de MotoGP.
Et pour cette première manche, pilotes et écuries sont en Thaïlande. Demain après-midi auront lieu les essais qualificatifs, mais aussi la course sprint. La course principale, rendez-vous tant attendu du week-end et de la saison, puisque je le répète, c'est la première, sera à suivre dimanche à partir de 19h. Du football également sur la scène métropolitaine avec la 24e journée du championnat de France de Ligue 1. Demain, en ouverture de cette journée, Strasbourg recevra Lens au stade de la Méno. Les autres matchs se joueront dimanche et lundi matin pour nous, à suivre dimanche Rennes-Toulouse, Monaco-Angers, Le Havre-PSG. Lundi matin, le Paris FC d'Antoine Comboiré recevra Nice, à suivre encore Lorient-Auxerre, Metz-Brest, Lille-Nantes et l'Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais au Vélodrome. Au chapitre rugby, c'est la pause pour le tournoi destination. En revanche, les clubs du top 14 seront sur les pelouses ce week-end. Dimanche matin, à suivre Clermont-Bayonne, Lyon-Toulon, Montpellier-Racing 92, Stade Français Perpignan, Toulouse-Montauban et Castres-La Rochelle. Lundi matin, en clôture de cette journée, la section paloise 2e recevra l'Union Bordeaux-Bègles 3e. Du basket également avec les qualifs à la Coupe du Monde, l'équipe de France jouera demain matin matin pour nous face à la Bulgarie. Lundi, les Bleus rencontreront la Hongrie. Et puis, on terminera sur le territoire. 15 jours après la rentrée, le sport reprend progressivement. Ce week-end en rugby, à suivre la rencontre amicale entre le 15 du Pacifique et le RC Mondor. Une rencontre qui se jouera au stade Christian Blanc à Pont des Français. Et puis, du tennis également avec ce samedi et dimanche, un tournoi multichance au Mont Coffin. Dimanche également auront lieu les championnats territoriaux d'haltérophilie.
Merci Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Vigilance jaune, forte pluie, orage. Elle concernera Belep et la côte ouest de Pouma à la fois pour des averses parfois orageuses qui persisteront en soirée. Elle concernera également la côte ouest de Ouégua à Thiou, où des averses localement orageuses se développeront sur le relief et pourront déborder sur le littoral demain après-midi. Cette nuit, des averses parfois fortes persisteront en soirée sur la pointe nord et la côte ouest. D'autres plus faibles circuleront sur l'extrême sud et les Loyautés. Sur la côte est, les nuages se dissiperont progressivement et laisseront les étoiles reprendre leurs droits. Sur la côte est et l'extrême nord, le vent deviendra faible. Ailleurs, il se maintiendra au sud-est entre 15 et 20 nœuds, localement plus de 20 nœuds aux Loyautés, avec des rafales pouvant atteindre 30 nœuds. Sous une couverture nuageuse encore importante, la nuit restera chaude, avec des minimales comprises entre 23 et 26 degrés. Demain matin, des remontées nuageuses accompagnées d'averses se maintiendront sur la pointe sud, le sud de la côte ouest et les Loyautés. Ailleurs, le soleil s'imposera en matinée, malgré un voile de nuages élevé sur l'extrême nord. Le vent de sud à sud-est soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds. Sur la côte est plus abritée, il restera variable et faible. Côté mer, la marée sera basse ce soir à 23h, puis elle remontera vers une pleine mer à 6h. Les amplitudes évolueront entre 51 cm et 1,45 m. Et côté ciel, le clair de lune atteindra 81% de luminosité. La lune dominera largement la nuit et baignera le lagon d'une lumière presque pleine. Et pour les amoureux des étoiles, notez-le, le 3 mars entre 20h et 23h, une éclipse totale de lune se produira et coïncidence hein, avec une pleine lune. Un rendez-vous céleste rare à ne pas manquer sous notre ciel du Pacifique.
Eh bien, merci beaucoup Pierre.